Bienvenue sur Fréquence Mistral, si vous nous retrouvez pour ce Un moment pour la Terre, cette émission mensuelle qui a lieu donc chaque dernier mercredi du mois. Aujourd'hui, ce sera donc Martine Vallon, présidente de France Nature Environnement 04. Elle est accompagnée de Billy, que je retrouve le nom, je ne retrouve plus.
Billy si. Fernandez, voilà. Donc, qui est un de nos collaborateurs actuellement.
Bonjour à tous les deux. Et puis le thème de l'émission, donc, c'est sport nature.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, oui, donc sport nature, eh bien, en cette début de saison d'été et de vacances, on s'est dit qu'il serait intéressant d'aborder justement cet aspect des sports qui sont pratiqués très fréquemment dans notre département. De voir un petit peu comment on peut aborder cette question. Je dirais, bon, les sports nature, pour nous, sont effectivement des sports pratiqués dans la nature, mais pas n'importe quel sport. Donc, on va un peu essayer de préciser ça. L'idée est aussi que lorsqu'on est habitant d'un département, lorsqu'on est responsable local, on a justement une responsabilité en ce qui concerne notre environnement, notre patrimoine et tout ce qui nous entoure. Et donc, je dirais un devoir de pédagogie vis-à-vis de ceux qui viennent chez nous pour pratiquer leur sport. Donc, c'est le deuxième point qu'on abordera. Et dans un troisième temps, Billy parlera aussi de ce que nous faisons à France Nature Environnement dans ce sens-là. Pour justement essayer d'éduquer un peu les pratiquants. Donc, je vais peut-être... laisser un peu plus la parole à Billy.
Oui, merci Martine. Alors, tout d'abord, peut-être définir un petit peu ce qui est pour nous un sport de nature. On a une définition un petit peu restrictive par rapport à celle, par exemple, de la loi, du code du sport, à savoir que pour nous, un sport de nature, ça consiste à évoluer dans le milieu naturel, essentiellement à l'aide des forces musculaires, ce qui exclut de fait les loisirs motorisés et certaines pratiques, par exemple... De ski alpin. Pourquoi une définition un petit peu restrictive ? Parce que pour nous, les sports de nature ont un rôle particulier, notamment concernant la capacité de pouvoir faire l'expérience avec son corps et ses sens de la nature, d'une nature peu ou pas aménagée, dans un monde où on est à 80% urbain aujourd'hui, où on fait de moins en moins l'expérience de la nature au quotidien, et où, en parallèle, on a un grand nombre d'études désormais en psychologie ou en psychologie sociale qui montrent le rôle bénéfique du contact avec la nature pour l'équilibre psychologique. Donc il y a diverses manières évidemment de faire l'expérience de la nature. Bon, dans nos rangs, j'allais dire, on a un certain nombre de naturalistes qui vont préférer aller spontanément avec une paire de jumelles se balader, faire de l'ornithologie ou de la botanique, etc. On peut aller flâner, on peut aller contempler et on peut aller aussi pratiquer une activité sportive plus ou moins aventureuse, avec un matériel plus ou moins sophistiqué. C'est dans ce cadre-là qu'on va traiter un petit peu du sujet aujourd'hui.
Oui, alors, j'aimerais dire, simplement, chez les marcheurs, on trouve déjà des différences entre ceux qui sont marcheurs et qui avancent pour parcourir une certaine distance, et donc qui grimpent les sommets éventuellement, et puis les flâneurs. Donc, moi, je dirais, quand je vais en montagne, je choisirais plus volontiers d'aller avec les observateurs des oiseaux, etc., ou bien ramasser les fleurs, enfin bref. Et parfois, on se rend compte, quand on est en groupe, qu'on a des approches totalement différentes entre ceux qui sont sur un côté très sportif et très... Oui, je pratique pour modeler mon corps ou pour être en bonne santé, pour me dépasser, etc. Ou bien je pratique pour regarder, enfin, me retrouver dans cet environnement-là. Et c'est vrai que aujourd'hui, par exemple, on a chez les gens qui habitent en ville, chez les urbains, de plus en plus, et chez les habitants des grandes métropoles, de plus en plus un désir de respiration, un désir de nature et un désir, effectivement, de se retrouver à ces moments, dans certains moments, ou de faire du sport en pleine nature. Et ça, avec une méconnaissance de ce que peut entraîner leur arrivée dans un milieu qui est, par exemple, un milieu assez sauvage, parfois. Donc, c'est cette question entre aménagement jusqu'où aussi qui se pose, en fait.
Donc, effectivement, aujourd'hui, y compris dans le domaine de l'éducation à l'environnement, on a des projets qui se développent où, par exemple, le sport de nature est un support, un moyen de découverte de l'environnement naturel, puisqu'on peut, par exemple, pour découvrir une rivière, on peut recourir à y aller avec un canoë-kayak. L'enjeu étant que les pratiquants, qu'ils soient libres, qu'ils soient avec un professionnel ou qu'ils soient dans un cadre de club, donc un cadre fédéral, soit le plus conscient possible de l'impact potentiel qu'ils peuvent avoir sur des milieux qui sont effectivement fragiles. Donc à partir de là, il y a des dispositifs qui existent pour permettre de maximiser, disons, la connaissance du milieu naturel et donc la culture naturaliste pour précisément minimiser son impact. Après, il y a un volet qui peut être un petit peu plus spécifique au sport de nature par rapport à d'autres pratiques qu'a évoqué Martine tout à l'heure, encore que la marche, même sans objectif de performance particulier, peut nous mener dans des endroits sauvages, dans des natures peu aménagées, mais il y a quand même l'idée que en particulier dans des départements de montagne comme les nôtres, pour pouvoir aller dans une nature assez sauvage, il y a une dimension sportive le plus souvent, sauf si on y monte en téléphérique ou en télésiège. Mais voilà, et donc il y a un adage qui dit que l'expérience du sublime doit veiller sur l'expérience du beau, c'est-à-dire que le fait d'aller voir la belle nature, la grande nature sauvage, et parfois avec une dimension sportive évidemment, ça nous permet de renouveler notre regard sur la nature du quotidien, sur cette nature qui peut sembler banale et qui finalement, si on la relie à quelque chose qui nous a touché un petit peu plus haut, et ben peut-être que on va faire évoluer effectivement son regard sur le sujet. Alors comment, je parlais des dispositifs tout à l'heure, comment concrètement quand nous on travaille avec le monde sportif, on va faire évoluer les comportements par la connaissance, je l'ai dit, mais aussi en adaptant les pratiques dans le temps et dans l'espace. L'exemple le plus facile à comprendre, c'est quand on a des secteurs de nidification d'oiseaux en falaise, qu'on a une pratique de l'escalade sur le secteur. On va travailler avec le monde de l'escalade, ce que fait aussi la LPO, pour limiter l'accès à certaines voies pendant les zones de nidification de certains oiseaux, donc que ce soit le faucon pèlerin, que ce soit l'aigle royal, que ce soit d'autres espèces, elles vont avoir des périodes de nidification différentes et donc on va pouvoir ajuster la fréquentation pour limiter un impact qui peut être pour le coup assez dramatique, puisqu'il suffit du passage d'un seul grimpeur au mauvais moment pour mettre en échec toute une couvée. Et voilà, donc ça fait partie des échanges qu'on a régulièrement avec le milieu, disons, des pratiquants.
Alors, donc ça veut dire qu'il faut, quand on pratique un sport nature, il faudrait être formé à justement toutes ces choses à l'environnement.
À avoir
ça devrait
un minimum
faire partie par exemple pour l'escalade, mais pour d'autres sports en lien avec
Oui, je pense que il faudrait avoir un minimum de connaissances, en fait, de oui, de, du fonctionnement de la nature et de ce qu'on peut rencontrer selon périodes. Où on va, selon les périodes, selon ce qu'on fait, parce que effectivement il y a cet aspect-là sur l'escalade, mais la même chose peut se poser en hiver quand on prend des raquettes et qu'on va dans des zones qui ne sont pas équipés, etc. Il y a à ce moment-là une faune aussi qu'on est susceptible de déranger et une faune qui, lorsqu'on la dérange en plein hiver, peut être véritablement très perturbée dans la mesure où des animaux qui sont habitués à avoir alors qui sont déjà en conditions difficiles par le froid, le manque de nourriture, etc. Et qui donc perdent de l'énergie si on les stresse trop fortement à ces moments-là.
Ça devient terrible. Non. Alors si on peut plus enfiler une paire de raquettes pour marcher dans la neige.
On a effectivement l'exemple du tétralyre, qui est une espèce menacée qu'on retrouve dans un certain nombre de massifs, là, pas très loin de Digne, puisqu'il y en a dans le massif des Monges, notamment, et qui va passer l'hiver se laissant enfouir dans des igloos, disons, dans la neige, et il va rechercher particulièrement pour cela des secteurs de poudreuses orientées nord, etc., qui sont des secteurs de pratiques privilégiées, alors, en priorité peut-être pour le ski de randonnée. Alors dans les Monges, l'enneigement est un petit peu léger, donc c'est des pratiques qui restent marginales. En raquette, ça peut être aussi le cas. Et aujourd'hui, il nous arrive de travailler du coup avec les gestionnaires des sites Natura 2000 pour, à partir de la connaissance des secteurs stratégiques pour ces tétralyres, que ce soit les zones d'hivernage ou ce qu'on appelle les places de champ, les secteurs où ils se retrouvent au printemps pendant la période du rut, pour effectivement faire en sorte que les itinéraires balisés, qui constituent quand même l'immense majorité de la fréquentation, évitent ces secteurs sensibles-là. Et il est vrai que quand, de manière générale, quand le monde naturaliste et le monde sportif arrivent à se parler, on arrive à adapter la pratique, à l'ajuster, de manière à ce que l'essentiel des intérêts des uns et des autres puissent être satisfaits. Il arrive que, exceptionnellement, il y ait des secteurs qui soient véritablement trop sensibles et qu'on doive limiter, voire interdire la pratique. Ça reste vraiment exceptionnel. On a des exemples dans des espaces protégés, effectivement, de type réserve naturelle, cœur de parcs nationaux, mais aussi certains canyons qui constituent des milieux particulièrement sensibles et très vulnérables aux dérangements et au piétinement, notamment d'une faune. J'y reviendrai tout à l'heure avec le Verdon, mais donc des petits insectes, des invertébrés aquatiques qui constituent la base de la chaîne alimentaire de la rivière, d'autant que ces canyons sont souvent situés en tête de bassin versant, donc tout en haut, et donc ils conditionnent la qualité écologique de l'ensemble de la rivière à l'aval. Ce qui fait que là, c'est des sujets parfois qui peuvent être un petit peu plus sensibles, mais de manière générale, sur les sports de nature tels que je les ai définis ici, donc encore une fois, on exclut les loisirs motorisés, les choses se passent quand même plutôt bien. Sauf aussi quand on arrive à des problématiques de surfréquentation sur certains sites.
Oui, donc c'est ce qui fait l'objet du deuxième axe de notre intervention, justement sur la surfréquentation possible à travers certaines formes d'aménagement, certaines prises de décision, certains projets.
Est-ce qu'on fait une pause musicale ? Alors on écoute Ragamuffin.
You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this is my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. No, no, no. Listen to the sound that he pours. Rock him up and there's a freedom fighter. He's handling.
what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear Rockamuffin, shall I not fall it down? Cause she is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good and see on the ground? Yes, you never had it easy, I know. But I still remember you. And what we used to have, so I say this is my song for you, my friend. You can only see that I will never forget, yeah, yes. What you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear Rockamuffin, should I not fall it down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good to see on the ground?
Voilà, donc on reprend cette émission Un moment pour la Terre, c'est donc sur le thème du sport nature.
Oui, donc je crois, c'est votre réaction là qui me fait penser ça. Je pense qu'il ne faut pas se désespérer et se dire « bon, je ne vais plus pouvoir sortir de chez moi ». Il est évident que l'être humain a un impact sur son environnement, comme tout être vivant a un impact sur son environnement, et que à partir de là, il est nécessaire d'en prendre conscience, d'essayer de le limiter le plus possible. Et je dirais ce qui aujourd'hui entraîne, je crois, la nécessité de réfléchir à ces questions-là, c'est que on est sur une augmentation importante de la fréquentation de zones naturelles pour des motifs de loisirs. Puisque, enfin, je veux dire, c'est ça aussi, la civilisation du loisir, c'est maintenant encore. Bon, on va peut-être passer à autre chose dans le siècle en cours, mais pour l'instant, on est encore là. Et donc, comment gérer ça au mieux, comment comment apprendre à des gens qui habitent sur des zones totalement urbanisées, agir en conséquence lorsque ils arrivent dans des zones naturelles et à avoir un minimum d'informations. Donc je crois aussi là et qu'il est nécessaire d'aborder la responsabilité de ceux qui créent les aménagements et aussi et le questionnement sur doit-on aménager des zones spécifiques où on laissera faire n'importe quoi. Est-ce qu'on va essayer de gérer globalement? Est-ce qu'on va interdire certaines zones? Enfin bon, il y a ces questions autour des parcs et des cœurs de parcs aussi qui sont des protections par rapport à certains dangers de l'impact humain.
Alors, depuis la loi sur le sport de 2000, il existe des lieux de concertation qu'on appelle les GDESI, donc des commissions départementales espace, site et itinéraire, avec un plan, un GDESI, donc un plan associé, qui sont, on va dire, des cadres un petit peu plus formels de la concertation qui pouvait exister de façon plus informelle au préalable sur des lieux donnés. Donc, bon, ça prend un petit peu de temps, ça se développe petit à petit dans les divers départements français, mais ça permet déjà d'avoir une visibilité sur éventuellement les nouveaux sites qui sont amenés à s'ouvrir, les nouveaux sites de pratique qui sont amenés du coup à s'équiper et à partir de là à pouvoir peut-être ajuster un petit peu les aménagements prévus pour maîtriser, puisque la loi parle de développement maîtrisé des sports de nature, donc il s'agit effectivement de maîtriser les équipements pour maîtriser la fréquentation. Donc là encore, c'est des lieux de dialogue entre le monde du sport et le monde de l'environnement. Il y a d'autres problématiques aussi qui sont liées à la propriété privée, puisque la majorité des sites de pratique sont sur des propriétés privées. Ça pose des problèmes de responsabilité aussi éventuellement en cas d'accident. Donc tout ça permet d'être géré un petit peu de façon globale. Après, Martine parlait effectivement de responsabiliser et de sensibiliser alors les gens qui vont avoir tendance à équiper ces sites-là. Donc là, on est plutôt soit sur des équipeurs individuels, soit sur des gens liés à des collectivités ou souvent liés à des fédérations sportives, qu'elles soient délégataires ou pas de l'activité, mais le plus souvent c'est le cas. Après, il y a un autre volet qui est important aussi, c'est le rôle des professionnels, puisque les professionnels sont souvent aussi des habitants du territoire. Il y a évidemment des saisonniers qui viennent sur des secteurs touristiques importants, mais il y a quand même un certain nombre de professionnels qui habitent le territoire. Et on a vu monter dans les modules de formation de ces professionnels une part dédiée à l'environnement, à la problématique écologique qui a effectivement augmenté. Donc ces gens-là ont un rôle. Moi-même, je suis accompagnateur en montagne. On a un rôle de médiateur entre des populations urbaines et un milieu naturel particulièrement fragile, mais aussi des rôles de médiateur quand il peut y avoir des conflits d'usage. Donc il y a un rôle et du coup évidemment une responsabilité particulière des professionnels qui nous amène à vouloir compléter la formation, disons, de base qu'ils peuvent avoir, qui est récente, par des dispositifs de formation ou de sensibilisation un peu plus poussés, puisque en fait on se rend compte que d'un professionnel à l'autre, il y a une très grande différence de connaissance du milieu naturel. Il y en a qui sont d'excellents naturalistes et il y en a d'autres qui ont un petit peu moins pris le temps peut-être de se pencher sur la question. Donc l'idée, c'est d'avoir une culture naturaliste commune assez forte, et évidemment pour que ces professionnels-là puissent être le relais de cette culture naturaliste auprès de leur public encadré.
Oui, et puis je pense aussi que il y a un aspect de formation, d'information aussi à donner quand je parlais de collectivité, aux responsables qui génèrent des projets d'aménagement. Effectivement, lorsque on met en place un téléphérique et qu'on envisage de l'utiliser l'hiver pour le ski et l'été pour amener des gens sur les sommets, on va multiplier la fréquentation, on va multiplier le nombre de personnes qui vont arriver jusqu'au sommet. Ça ne va plus être celui qui aura marché pendant 2 heures, mais ça va être quelqu'un qui va faire son 20 minutes de téléphérique. Et donc ça ouvre effectivement le lieu à une fréquentation beaucoup plus importante. Donc forcément, un impact beaucoup plus important. Alors, sur certaines zones qui sont particulièrement fragiles, donc là, c'est pas forcément téléphérique, mais il y a les questions de piétinement. Mais après, il y a tout ce qui est déchets abandonnés, les pique-niques où on ne remporte pas toutes ces poubelles, enfin, etc., etc. Donc il y a une augmentation de tous ces
déchets éventuellement.
Oui, aussi. Laissés. Voilà, et de tous ces impacts différents que nous avons sur le milieu naturel.
puisqu'évidemment, on n'est pas dans un stade, et donc, à partir de là, il n'y a pas forcément, y compris, de poubelles à disposition, et parfois, on fait le choix, quand on est sur des problématiques d'aménagement, justement, de ne pas nécessairement mettre de poubelles. Alors, il y a des débats sur les toilettes sèches aussi, sur les sites de pratique. Maintenant, ça, on considère que ça doit être quand même installé. Oui, oui. Voilà, on entend sur les sites de très grande fréquentation, parce que sinon, de toute façon, le résultat peut être un petit peu dramatique pour le lieu. Mais voilà, sinon, il y a évidemment cette culture-là à avoir. Juste pour revenir sur... sur le rôle des professionnels, disons, dans ce rôle de médiateur naturaliste, il est clair que c'est une responsabilité de leur part, mais c'est aussi une valeur ajoutée à leur prestation de pouvoir, dans le cadre de telle ou telle sortie, montrer à leurs clients qu'il y a, je sais pas, sur les milieux aquatiques, il y a par exemple le simple plongeur ou le petit gravelot ou tel milan royal ou telle espèce rare ou menacée, et voilà. Voilà, c'est une manière de... Sachant que dans les études nous montrent que aujourd'hui les clientèles sont en recherche de sens. C'est-à-dire qu'il y a les trois temps, il y a des sociologues et des géographes du sport qui ont travaillé là-dessus. Il y avait l'époque moderne où c'était la conquête, l'ascension, voilà. Il y a eu l'époque post-moderne où là c'était le fun, voilà, on est là pour s'amuser, etc. Et aujourd'hui, il y a l'époque, ce qu'ils appellent transmoderne, c'est-à-dire la recherche du sens, la recherche de valeur, voilà. Et donc c'est pas seulement, on pourrait dire, une contrainte ou une lourde charge de responsabilité, c'est aussi quelque chose de très positif pour eux-mêmes et puis pour leur pour comme facteur d'attractivité de leurs prestations.
Oui, parce que lorsque je parlais de ce désir des urbains, il y a vraiment une recherche de connaissance aussi, il y a une recherche de compréhension, il y a une recherche de découverte. Et en fait, ça, l'aménagement ne le permettra pas. Je veux dire, il faut, pour qu'il y ait découverte d'un monde naturel, il faut qu'on laisse un espace de sauvage, un espace qui soit véritablement naturel. Sinon, c'est comme quand on va voir des animaux dans un zoo ou un parc animalier. Ça n'a rien à voir avec les animaux qu'on peut croiser, ces mêmes animaux, quand on les aperçoit vaguement ou quand on les pressent dans un environnement naturel. Et je crois qu'aujourd'hui, tout est tellement cadré, organisé, limité, réglementé, etc., que le besoin de nature va avec un besoin de respiration. Cet apport de connaissances peut être aussi un vrai dialogue et un lien qui soit fait entre des habitants de secteurs différents, hein, des habitants qui vivent un quotidien différent et trouver des ponts et des moyens de les faire se rencontrer.
Oui, parce que moins l'espace est aménagé, finalement, plus l'expérience va être forte et intéressante. Mais en contrepartie, la nature est aussi un milieu qui peut être dangereux. Donc le fait de bien connaître le milieu naturel, ça permet aussi de se prémunir, de limiter les risques qu'on peut prendre, que ce soit sur le fonctionnement d'une rivière ou que ce soit dans les pratiques hivernales avec la connaissance de la nivologie et du risque d'avalanche quand on est en ski de randonnée, par exemple. Les deux, la lecture du paysage et de l'état de la neige permet à la fois de savoir si on risque de se mettre en danger et de savoir si on risque éventuellement d'impacter des zones sensibles. On a parlé du tétra, mais il y a tout le cortège des espèces hivernales, y compris des grands ongulés qui, avec des hivers très enneigés, peuvent souffrir quand même de façon importante.
Donc vous, Billy Fernandez, vous êtes salarié donc de France Nature Environnement 04, en même temps guide, accompagnateur de montagne et naturaliste.
Oui, je suis surtout salarié à plein temps à France Nature Environnement, ouais. Mais j'ai effectivement travaillé pendant quelques années comme accompagnateur en montagne et je suis un très modeste naturaliste aussi.
On fait une deuxième pause musicale et on va écouter donc Chet Faker qui chante Gold. C'est tout de suite. Mmh.
never loved another one, another you. It's gotta be love, I said it. You gotta know I'm feeling love. You gotta know I'm feeling love. You gotta know I'm feeling love. Made it go, I'm never lover. Another one, another you. It's gotta be love, I said it.
I might as well be in our garden. I said I smell in the air. Dripping rose.
You can be the one for me.
Another soul to be my warden. Of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see what it's done. Remains before it's begun. You old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see what it's done.
Alors, un moment pour la Terre avec France Nature Environnement, les réglementations par rapport...
Oui, donc nous agissons à France Nature Environnement sur ces questions-là, comme sur beaucoup d'autres, avec deux axes, je dirais. Le premier qui est un travail de surveillance, de veille, enfin, et d'aide au respect de la réglementation, et puis un travail de pédagogie pour faire évoluer les pratiques et faire évoluer les consciences. Donc, en ce qui concerne les sports nature, par exemple, donc je parlerai sur ces aspects réglementation, les difficultés fréquemment rencontrées concernent les sports motorisés, enfin voilà, quad, motocross, tous ces sports qui sont appelés nature mais qui pour nous ne sont absolument pas des sports ni compatibles avec la nature ni très nature en eux-mêmes. Donc là, la réglementation à ce niveau-là est simple, c'est qu'ils ne doivent utiliser que des chemins qui sont des voies ouvertes à la circulation, donc où une voiture elle-même pourrait passer, ce qui enlève beaucoup de fun au sport lui-même. Et donc, c'est là où les professionnels vendent des circuits en rivière ou en zone totalement interdite normalement. Et donc là où nous intervenons parfois pour faire cesser ce type de pratique.
Parce que le motocross, on le voit toujours sur des tout petits chemins qui sont utilisés plus pour le VTT, enfin autant pour le VTT que pour les piétons. Et ça, c'est strictement interdit.
En principe, les motos devraient être sur des voies, voilà. complètement.
Donc, globalement, on a une circulaire de 2005 qui rappelle ce principe-là, c'est-à-dire pas de hors-piste. Et effectivement, dès lors qu'on est sur ce qu'on appelle en VTT un single, c'est-à-dire une seule trace, a priori, on n'a pas le droit de circuler avec une motocross, etc. En fait, en réalité, c'est le statut juridique de la voie qui compte, mais il est très rare que un chemin rural ne soit juste constitué que d'un single, etc. Donc, pour faciliter la compréhension du grand public et pour les agents verbalisateurs, on considère que il faut qu'une voiture de tourisme classique, non spécialement équipée de 4x4, puisse passer sur cette voie qui doit être ouverte. C'est-à-dire que dès lors que la voie est fermée par des panneaux de signalisation, évidemment, ou qu'on est sur une voie privée qui est fermée par une chaîne, voire même la jurisprudence nous dit qu'il suffit qu'il est barré par des branchages, des arbres, pour que manifestement l'accès soit rendu difficile pour que la voie soit fermée. Donc effectivement, c'est pas toujours facile de faire respecter cette réglementation-là, et y compris après aussi pour des agents verbalisateurs de pouvoir verbaliser par définition des véhicules qui peuvent s'évanouir dans la nature très facilement.
Voilà, donc ça, c'est un des axes sur lesquels on intervient au titre de l'association, de la fédération. Et puis, l'autre axe est un aspect donc pédagogique de formation des professionnels.
Donc là, pour la quatrième année, on travaille avec le Parc naturel régional du Verdon à organiser des journées de formation et de sensibilisation des professionnels des sports d'eau vive sur le secteur du Moyen Verdon, donc dans le cadre, puisqu'il y a plusieurs dispositifs, il y a un contrat de rivière là-bas, il y a un schéma d'aménagement, un SAGE, un schéma d'aménagement et gestion des eaux qui sont regroupés au sein du plan de gestion Moyen Verdon, et donc on organise ces formations-là. La prochaine session, la session 2017, commence demain, puisqu'il y a une demi-journée théorique demain, avec, on attend une trentaine de professionnels environ, ça se passera sur la commune de Rougon, et donc on aura notamment la restitution d'une étude qui a été menée par la Maison régionale de l'eau sur l'impact du piétinement des milieux aquatiques sur les invertébrés aquatiques, donc ces petits insectes qui vivent en général sous les pierres et qui sont particulièrement sensibles du coup au piétinement. Donc là encore, on adapte les pratiques, c'est-à-dire qu'il y a un cheminement qui est prévu pour limiter au maximum les moments où on va devoir marcher sur un lit, en particulier un lit de galets, etc. Mais on va privilégier les secteurs de nage, voire parfois on considère qu'il faut sortir du cours d'eau parce que l'impact est trop important. Il faut savoir que là, on parle notamment de la randonnée aquatique, qui est une activité qui s'est beaucoup développée depuis une dizaine d'années. Il y a des réglementations sur place, puisqu'il y a un arrêté de biotope qui protège un poisson assez méconnu qui s'appelle l'apron, qui est un poisson en danger critique d'extinction. Il ne reste que quelques populations. Donc il y a cette réglementation liée à l'arrêté de biotope. Et puis il y a un autre arrêté préfectoral qui, depuis 2014, cadence les groupes de randonnée aquatique, puisque on a une fréquentation estimée entre 10 et 20 000 personnes dans ce petit couloir Sanson sur l'été, et avec un chiffre d'affaires évidemment qui est déjà important et qui est en augmentation, puisqu'il y a de nouvelles compagnies qui viennent s'installer. Donc là encore, il s'agit d'être sur un développement maîtrisé des sports de nature, et surtout de faire en sorte que tout professionnel qui va pratiquer sur le site a bien conscience des enjeux, du cheminement à emprunter, et peut aussi du coup en faire part à ses clients. Voilà. Donc il y aura aussi les services de l'État qui seront là pour rappeler ce cadre-là. Et donc ça, c'est demain. Et puis il y a deux journées la semaine prochaine où là, on sera sur le terrain, c'est-à-dire qu'on va pratiquer directement avec les professionnels, d'une part sur le secteur du couloir Sanson et d'autre part sur le secteur plus bas dit Estellier-Imbu, qui est quelque chose d'un petit peu plus sportif, où on va pouvoir aussi faire de la sensibilisation directement sur le terrain et pouvoir montrer spécifiquement les cheminements à suivre pour que l'activité puisse continuer et puisse continuer aussi à faire vivre peut-être à un certain nombre de professionnels locaux, mais que ça se fasse dans le respect de l'environnement au maximum et en limitant son impact sur ces milieux très fragiles et cette espèce menacée.
Oui, et là, ce qui est important là, c'est effectivement la concertation qui peut se faire avec les professionnels et le travail en commun de connaissance du milieu et de médiation qu'ils pourront faire ensuite vis-à-vis de leurs clients. Et bien évidemment, plus on a affaire à des professionnels qui aiment leur lieu d'intervention, qui aiment leur pays, qui sont et plus on a des gens motivés et avec qui on peut effectivement travailler sur ces questions-là. Pour terminer, je vais juste rappeler un petit peu donc quels sont les événements et animations que nous prévoyons sur le mois à venir. Donc là on a parlé de ces formations là, mais qui sont à destination de professionnels, donc ça c'est pas grand public. Je voulais juste rappeler nous avons les universités d'été de France Nature Environnement qui se déroulent là ce week-end du 29 au 1er juillet. Donc ça se passe à Bierville dans l'Essonne. Et c'est la deuxième année que France Nature Environnement organise des universités d'été. Et cette année, le thème sera sur le lien entre justice sociale et transition énergétique. Et puis, plus proche de nous, bien sûr, France Nature Environnement 04, nous avons le 1er juillet à Digne, dans le cadre des Rivières en Fête, donc des événements qui sont organisés sous le thème Rivières en Fête. Nous animons un jeu, question pour un champion du développement durable, donc le jeu qu'on anime régulièrement dans les petits événements de ce genre. Et ce sera spécial Bléone, donc c'est le 1er juillet à Digne, à 10h30, devant la médiathèque.
10h30,
oui. Et ensuite, je voudrais rappeler, donc avec un peu d'avance, mais quand même, l'événement sur le 2 août, donc dans le cadre du partenariat avec le musée Gassendi et la pétition qui est lancée pour la protection des sols, donc la pétition citoyenne européenne que nous demandons à tout le monde de signer. Donc là, ça s'appelle l'appel du sol, et donc ce sera le 2 août à Digne, devant la médiathèque de 10h à 18h, et au musée Gassendi aussi, durant toute la journée, de 11h à 19h. Donc là, c'est un événement qui a trait à la question du sol, à la fois sous un aspect artistique, esthétique et aussi technique de connaissance. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler puisque nous aurons une information là-dessus très prochainement.
Très bien, merci.
Merci à vous.
À sa fin. On retrouvera cette émission en ligne sur le site de Fréquence Mistral et elle sera très certainement en rediffusion. Bonne journée à tous. À bientôt.
À bientôt. Merci.